Webinaire WebESR, un webinaire proposé par Amundi Épargne Salariale et Retraite sur le thème « Partage de la valeur et politique 2022 des avantages sociaux ». Un webinaire animé par Fabrice Coustet.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau Web ESR, un webinaire proposé par Amundi Épargne Salariale et Retraite. Un format, vous le savez, interactif sous forme d'une table ronde d'une quarantaine de minutes, suivi par vos questions. Donc merci à vous tous de vous être connectés et n'hésitez pas à réagir à nos propos. Alors le thème du jour, à l'heure où l'inflation commence à pointer son nez, à affoler les investisseurs, force les grands argentiers, banques centrales en tête, à réagir. Les tensions post-crise sanitaire sont de plus en plus fortes pour les entreprises. Dans un contexte de guerre des talents, comment retenir ses meilleurs salariés, qui sont, on le sait, de plus en plus volatiles? Comment attirer les meilleurs collaborateurs? Dans ce contexte, quelles sont les règles pour améliorer le partage de la valeur? Et surtout, comment optimiser la politique d'avantages sociaux en 2022? C'est autant de questions que nous allons poser à nos experts du jour. On est ravis d'accueillir Jacques Hadou. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Directeur général ressources humaines et responsabilité sociétale chez Edenred.
Tout à fait.
Bienvenue à vous. À vos côtés, Sophie Lebeau. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire générale épargne salariale et retraite chez Amundi. Et également, on est en compagnie de Philippe Vivien. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Vous êtes vice-président du groupe Alixio.
Absolument.
Bienvenue à tous. On va donc démarrer par une présentation succincte de vos fonctions, de votre parcours et de vos sociétés. Ensuite, le débat et puis bien sûr, vos questions-réponses. On commence avec vous, Philippe, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe Alixio?
Le groupe Alixio, c'est un groupe de conseil en ressources humaines, présidé par Raymond Soubi, bien connu dans notre métier, dont je suis le vice-président. Et nous accompagnons les entreprises dans justement toutes ces transformations qu'elles ont à vivre actuellement. J'ai passé une bonne partie de ma carrière dans la partie ressources humaines de grandes entreprises. Et puis, par rapport au patrimoine, j'ai présidé la GIRC pendant 6 ans, qui fait partie des éléments qui m'ont vraiment, je dirais, fait bouger sur tous ces sujets.
Ah, mais on pourra en reparler tout à l'heure, effectivement. Groupe Alixio, combien de personnes?
800 personnes, 800 salariés, 120 millions de chiffre d'affaires.
D'accord. Sur la France?
Sur la France et avec des interventions, de plus en plus d'interventions à l'international, en Europe en particulier.
Jacques Hadou, chez Edenred. Groupe coté, bien connu. Néanmoins, une petite présentation.
Bah écoutez, Edenred est le leader mondial des solutions d'argent fléché. Nous avons 3 grandes activités. La première est l'avantage aux salariés. Donc justement, nous aurons l'occasion d'en parler. Après, nous avons un deuxième pilier de notre activité qui sont les solutions de mobilité proposées aux collaborateurs, sujet qui est dans le vent en ce moment. Et un troisième pilier qui sont les paiements interentreprises. Et en quelques mots, c'est 10 000 collaborateurs présents dans 46 pays et 50 millions d'utilisateurs de nos produits dans le monde.
50 millions d'utilisateurs déjà, oui, voilà. Avec attention, des concurrents qui sont aussi, commencent à arriver sur le numérique notamment.
Bon, vous savez, le numérique, c'est nous qui l'avons inventé dans ce métier. C'est nous qui avons inventé la digitalisation, donc nous sommes assez sereins dans ce contexte.
Sereins, effectivement. Sophie Lebeau, merci d'être là également, secrétaire générale épargne salariale et retraite chez Amundi. Alors c'est vrai que vous êtes aussi à l'origine de ce beau sujet aujourd'hui. Pourquoi c'est important de reparler de ce partage de la valeur en 2022?
C'est important, on en parlera je pense tous ensemble, mais c'est important que les salariés savent et connaissent ce qu'ils ont à leur disposition, parfois méconnu, et les entreprises ne mettent pas forcément parfois toute la communication ad hoc. Donc c'est important en début d'année de bien rappeler à l'ensemble des salariés qui ont la chance de bénéficier de l'épargne salariale et de l'épargne retraite, à peu près 11 millions de salariés en France, c'est important de leur rappeler tous ces éléments.
Ouais, 11 millions de salariés qui en bénéficient, une grande partie organisé, on va dire, par Amundi et Épargne Salariale et Retraite, un leader sur son marché.
Voilà, sur les 11 millions, Amundi accompagne à peu près 4 millions de salariés et gère à peu près 78 milliards ses salariés nous confient 78 milliards à gérer.
Voilà, il y a des propositions sur la table en ce moment pour justement essayer peut-être d'ouvrir encore plus ces dispositifs à plus de salariés. Est-ce que ça serait une solution, Philippe?
Évidemment que tout ce qui va permettre d'ouvrir des solutions, d'une part, à l'ensemble des salariés, c'est-à-dire en particulier aux plus petites entreprises, tout ce qui va permettre d'augmenter la part de l'actionnariat salarié, tout ce qui va permettre de donner aux salariés des choix, d'affectation d'épargne dans l'entreprise est quand même extrêmement intéressant. Et qu'un salarié, achète en bourse directement et ou qu'il achète à travers un fonds commun de placement, à travers la vie de son entreprise, c'est quand même pour lui à la fois plus rassurant, plus profitable et moins coûteux de passer par l'épargne salariale. Ça, c'est une évidence absolue. Et on en est encore loin. Enfin, il y avait un article ce matin qui rappelait que 66 milliards de dividendes sont versés cette année par les entreprises. Et malgré tout, 21 milliards, je dirais, reviennent aux salariés au titre de l'intéressement, de la participation ouais, et des abonnements.
On ne sait pas assez, d'ailleurs.
Ce qui est quand même pas mal, 21 milliards au total. Mais on voit bien qu'il y a encore de la place. Il y a encore beaucoup de place à prendre sur ce sujet.
Alors, vous gardez la parole, Philippe Vivien. Post-Covid, c'est étonnant, mais voilà, 2022, on a l'impression que c'est une année qui commence sur les auspices de la pénurie. Je m'explique, pénurie de compétences, pénurie, on le voit, de matières premières qui créent des tensions. Qui aurait pu imaginer un tel scénario post-crise sanitaire?
Je pense personne. Si au mois de mars, il y a deux ans, ou au mois de février, il y a deux ans, on nous avait dit que le taux de chômage baisserait, qu'on serait tous en pénurie de compétences, qu'on ne serait pas avec un taux de chômage à 15% et que la vie serait finalement ce qu'elle est aujourd'hui, personne ne l'aurait cru. Enfin, je pense qu'il n'y a pas un prévisionniste qui était capable de le dire. On voit des tensions salariales revenir, ce qui est pas mauvais. Enfin, je veux dire, ces pénuries, elles vont créer des éléments de tension salariale. Et tout l'enjeu pour les entreprises, ce sera développé tout à l'heure, tout l'enjeu pour les entreprises, ça va vraiment être d'être capable de mettre en place tous ces systèmes. Et ça ne passera pas exclusivement par les salaires. Ça, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. On a vu l'année dernière un phénomène qui était très intéressant. Entre septembre, le moment où les entreprises préparent leur budget, mettent dans les simulations budgétaires les montants d'augmentation de masse salariale. Et ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer, je dirais, dans les négociations, on a vu passer les entreprises de à peu près 2%, ce qui était prévu, 2-2,5% pour la France, à 2,75%, à 3%, à 3,5%. J'ai souvent dit l'année dernière que je voyais augmenter les budgets d'augmentation de 0,2% par quinzaine.
Tous les 15 jours, 0,2%.
C'était à peu près ça. Quand on discutait avec les DRH, c'était à peu près ça. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est aux alentours de 3,5% pour pas mal d'entreprises. Alors, tout compris, vraiment, les augmentations générales, individuelles, les promotions, tout ce que vous voulez. Mais on voit bien que c'est une évolution qui est très différente de ce qui s'est passé les années précédentes. Donc, il va falloir quand même être vigilant par rapport à tout cela.
Bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez également, Jacques Hadouche et Danray?
Oui, et d'ailleurs, c'est un phénomène mondial. Partout, on assiste à cette situation de guerre des talents, de pénurie de ressources, notamment dans le domaine du digital. Et avec un phénomène ces deux ans de Covid, ont été une forme de parenthèse. Mais si on se souvient, en 2019, on était déjà dans une situation de tension. Voilà, il faut quand même pas. Ça paraît très loin maintenant, 2019, mais moi je me souviens, en 2019, on était déjà. Enfin, il y avait la situation économique était bonne et on était déjà dans ce contexte très tendu. Il y a eu 2020 surtout où tout a été gelé. 2021, les choses ont commencé. Et là aujourd'hui,
après un très bon démarrage, on se souvient du début 2020 qui était déjà, il portait en germe, comme vous le disiez, toutes les tensions. Finalement, on sentait qu'il y avait du business, que c'était porteur, sûrement qu'il y aurait une résurgence de l'inflation. Le Covid, évidemment, a cassé
COVID
tout ça.
Le Covid a tout bloqué. Et là, le monde s'est arrêté. Donc, effectivement, quand le monde s'arrête à tous les niveaux. Ça veut dire qu'on arrête de recruter, on essaie de préserver l'essentiel. Et maintenant, au sortir de cette période, qui j'espère, même si la situation dans le monde n'est pas partout identique, il faut quand même pas, faut s'en souvenir, mais on espère tous que ça sera derrière nous, eh bien, il y a cette situation de tension, elle est revenue, et avec en plus un effet de rattrapage. C'est le même problème quand on dit par la pénurie de matières premières, etc. C'est qu'il y a un effet de rattrapage où, forcément, sur des ressources déjà tendues, on rajoute effectivement une surdemande liée à ces effets. Donc ça crée des phénomènes de tension très forts.
Avec toutefois une particularité française qui est, grâce aux mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, une préservation et de l'emploi et des salaires. Ce qu'on n'a pas vu dans de nombreux autres pays. Donc à la fois, on a réussi à amortir le choc grâce aux mesures gouvernementales. Et il n'y a pas eu des niveaux d'augmentation très élevés, mais il n'y a pas eu non plus de baisse de salaire très, très importante. Je veux dire, tout ce qui a été mis en place, les APLD et ainsi de suite, ont permis d'amortir. Et là, on voit bien que ça redémarre de manière assez soutenue, avec à la fois c'est soutenu et avec des difficultés d'embauche. Enfin, je crois que c'est ça le
sujet
majeur.
Donc des tensions en germe avant la crise, finalement, qui reprennent aujourd'hui assez naturellement et peut-être qui sont accentuées, du coup. C'est clair. Est-ce que, justement, quand vous disiez 0,2 points tous les 15 jours au niveau de l'inflation salariale entre septembre et décembre, c'est uniforme, c'est pour tout le monde, est-ce qu'on se dirige vers une hausse des salaires généralisée?
Ah, je pense qu'il va y avoir pour de nombreux métiers, je ne sais pas si c'est généralisé, mais pour de nombreux métiers, une vraie hausse des salaires. Et vous avez vu, à la fois, il y a la hausse des salaires classiques, si je puis dire, qu'on voit sur les métiers historiquement techno, en tension et ainsi de suite. Mais vous voyez bien aussi le mouvement qui est en train de se produire sur les salariés de la première ligne, sur les invisibles. Vous avez vu des négociations de branches qui sont intervenues ces derniers mois, qui visent véritablement à ce que même les plus bas salaires, et je crois que c'est tout à fait légitime, soient augmentés, faire en sorte que par exemple les mini de salaire de branche ne soient pas inférieurs au SMIC, ça ne paraît pas quelque chose d'extraordinaire. Mais on voit bien que tout ça est en train de bouger. Pour accompagner un certain nombre d'entreprises de ces secteurs, c'est clair que l'ensemble des rémunérations est en train de bouger. La question qui va se poser de nouveau après, ça va être de nouveau une question entre emploi et salaire. Tout ce qui ne pourra pas être ni automatisé, ni délocalisé, pas de souci. Et ça, c'est très bien. Je pense que par rapport aux services, ça va faire partie des emplois de demain, qu'il ne faut pas les oublier. Mais on va voir de nouveau des arbitrages intervenir sur salaire, emploi, robotisation, délocalisation, quoi qu'on en dise. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit vraiment vigilant sur l'ensemble de ces éléments. Et c'est pour ça, je reviens là-dessus, qu'actionnariat salarié, participation, intéressement, épargne retraite font vraiment partie des solutions.
Sophie Lebeau, une question. Là, ces différents dispositifs, on peut dire qu'aujourd'hui, on sait que les grandes entreprises sont largement emparées. Il y a eu des initiatives aussi pour les plus petites entreprises, des choses notamment digitales qui ont été mises en place pour accélérer ça. Est-ce que ça prend vraiment dans les plus petites, les moyennes entreprises?
Alors, ce qu'on constate effectivement depuis la loi Pacte, c'est que effectivement les petites entreprises de moins de 50 salariés se sont emparées, pas encore suffisamment puisqu'il y a énormément d'entreprises à couvrir, se sont emparées effectivement de ces dispositifs grâce notamment à la suppression du forfait social sur les entreprises de moins de 50 et moins de 250 sur l'intéressement. On le constate dans les chiffres, c'est vraiment les PME, TPE qui s'empare des dispositifs d'épargne salariale. Il y a une loi, la fameuse loi ASAP aussi, qui permet maintenant aux dirigeants chefs d'entreprise de mettre en place de l'épargne salariale de manière unilatérale. Et ça simplifie beaucoup les choses dans certaines entreprises. Il n'y a plus besoin de recueillir l'aval de tous les salariés. Donc, sans conteste, même pendant le Covid 2020-2021, on a constaté, post-loi Pacte, un développement en fait de l'épargne salariale dans les plus petites structures. Alors il y a encore beaucoup à faire parce qu'aujourd'hui ça reste facultatif. On entend des petites musiques dans le cadre des débats présidentiels ou autres que ça pourrait être intéressant de rendre obligatoire la participation dans les entreprises de 11 à 50 qui aujourd'hui ne sont pas couvertes. On verra. Pour l'instant, c'est des bruits de fond qu'on entend.
Ouais, pourquoi pas. Jacques Adou, là aussi, sur ces tensions qui resurgissent. Alors, Edenred est mondial, donc vous avez la vision sur tous les continents, je dirais. Vous disiez, c'est un phénomène mondialisé aujourd'hui?
Oui, c'est un phénomène mondial, parce qu'aussi, sur certaines catégories de collaborateurs, le marché est devenu mondial. Et ça a quand même été une des grandes transformations de ces deux années de Covid, c'est qu'effectivement, le télétravail, pour certaines catégories de travailleurs, bien évidemment, a été généralisé. Une entreprise comme Edenred a eu jusqu'à 95% de ses collaborateurs qui ont travaillé depuis chez eux au pic de l'épidémie. Et la boîte a continué à très bien marcher, à très bien fonctionner. Aucun utilisateur ne s'est dit à un moment, ça marche. Non, ça continue à fonctionner, à rouler.
C'était une surprise, là, vraiment. On a la chance d'avoir deux grands témoins aujourd'hui. C'était une surprise que ça marche finalement aussi bien, télétravail.
Je pense qu'on avait fait un crash test une semaine avant la fermeture. Parce que vous êtes mondial, on voyait que l'Asie, on s'en disait, ça va pas faire comme le nuage de Tchernobyl, quoi. Ça va pas s'arrêter à la frontière.
Donc, vous aviez testé les systèmes.
Oui, quand on a vu ce qui se passait en Asie, on s'est dit ça va forcément venir. Donc, on avait fait un crash test et on avait vu que ça marchait. Heureusement, mais on commençait à s'y préparer, forcément.
Donc, ça marche extrêmement bien. Est-ce que ça change des choses pour l'après Covid? Est-ce que justement au niveau, on en parle beaucoup, justement même des structures, du travail, des bâtiments même, des locations aussi de mètres carrés, est-ce qu'on en a finalement besoin? Qu'est-ce que ça a changé?
Oui, ça change beaucoup de choses parce que les attentes des collaborateurs aujourd'hui sont différentes de ce qu'elles pouvaient être il y a 2 ans ou 3 ans. On était déjà souvent comme dans quelque chose d'assez individualisé. Et ça l'est peut-être encore plus aujourd'hui. Voilà. Et par rapport à ce dont on parle notamment des dispositifs d'épargne, c'est ce qui, là aujourd'hui, il va falloir faire l'équilibre entre les dispositifs collectifs et les dispositifs individuels. Comment on arrive à gérer une forme de solidarité dans l'entreprise et en même temps des attentes individuelles qui sont de plus en plus variées. Mmh. Voilà, c'est je veux maîtriser ma carrière, je veux maîtriser mes rémunérations, je veux maîtriser les éléments de ma rémunération et je veux maîtriser mes parcours professionnels qui ne sont plus forcément linéaires comme ils pouvaient être avant. Et avec, je peux très bien travailler pour une entreprise allemande tout en restant en France, en étant salarié, enfin voilà, en France ou ailleurs. Donc il y a aujourd'hui cette diversité qu'il faut savoir appréhender et être de plus en plus créatif, je crois, sur les éléments de rémunération. Ouais. Je pense qu'il y a un bel avenir pour les spécialistes de Compenben dans les entreprises.
J'ai l'impression que ça complexifie un peu votre métier, c'est-à-dire qu'on va vers l'individualisation. Est-ce que c'est la condition aujourd'hui justement de la rétention des talents? Parce que vous disiez, je vous ai coupé avec ce que ça a changé le Covid, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui ont fait cette expérience, ils peuvent dire aujourd'hui, bah, si je peux rester chez moi, finalement, je peux m'adresser au monde entier.
C'est exactement ça. Donc, vous savez, il y a déjà aujourd'hui dans le monde un ingénieur informaticien sur deux qui est indien. Vous vous doutez bien que ces gens-là ne travaillent pas que pour l'Inde. Voilà, donc ce mouvement, il était déjà là. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes face à des personnes qui veulent maîtriser, je dirais, comme je dis, l'ensemble un peu des éléments de leur carrière, de leur rémunération. Donc, il faut savoir en tenir compte. Mais en même temps, on vit dans une communauté. Mmh. L'entreprise reste une communauté et il faut savoir dire ben, l'individualisme a aussi ses limites. Et ses limites, effectivement, c'est le vivre ensemble, c'est la cohérence de ce que l'on fait. Donc jusqu'où on met le curseur de l'individualisation et pour conserver la cohérence du collectif.
Philippe Vivien.
C'est le sujet des 10 ou des 15 prochaines années. Parce que d'un côté, vous avez l'entreprise qui peut choisir de faire travailler telle ou telle personne de presque n'importe quel endroit dans le monde pour un certain nombre de nos métiers. Un. Deux, mais ça veut dire que si je fais travailler un Indien pour des équipes parisiennes, est-ce que je le paye au salaire indien ou est-ce que je le paye au salaire européen ? Premier sujet. Donc vous avez déjà cette géolocalisation du monde du travail pour un certain nombre de métiers qui est importante. Mmh. Et deux, je crois qu'il y a un deuxième sujet, et ce que dit Jacques Hadou est tout à fait clair sur la collectivité, le collectif de travail, l'équipe. Après, vous avez un deuxième sujet, c'est que de plus en plus, et ça a été dit aussi, les salariés ne seront pas salariés ad vitam aeternam. Soit ils sont salariés ad vitam aeternam, mais dans des entreprises différentes, qui peuvent avoir des statuts à leur proposer différents, soit en passant d'un statut à l'autre. Et je crois que les enjeux de moyen terme, et justement, cette constitution d'une épargne de moyen terme, elle est tout à fait essentielle. On a fait beaucoup d'avancées en France à travers la notion de portabilité. C'est-à-dire, je ne perds pas tout ce que j'ai cotisé à un endroit donné, mais on voit bien qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Cette portabilité, elle n'est pas seulement dans le statut de salarié. Donc, comment on fait en sorte de favoriser des passages d'un statut à l'autre? Et ça passera toujours par une sorte de socle d'épargne. Alors, évidemment collectif, mais aussi par des choix individuels. Et au-delà de l'individualisation, c'est la capacité qu'on aura à répondre à des choix individuels qui seront beaucoup plus complexes que ceux qui étaient ceux de nos parents ou ceux de nos grands-parents. Et ça, je crois que c'est vraiment le champ majeur des 10 prochaines années.
Et ça accélère. Hein. Bon, on prend toujours cet exemple, c'est vrai, de la Silicon Valley où voilà, une guerre des talents féroce, on le sait. C'est 3 ans, 4 ans maximum hein, dans une société. On passe de Facebook à Google, à Tesla, etc. Bon, tout le monde n'a pas ce choix, mais évidemment, ça donne quand même une idée. J'ai une question pour Sophie Lebeau. Philippe vient de citer un mot très important, portabilité. Est-ce que quand on est dans ces dispositifs, qu'on va travailler chez Edenred, puis chez Alixio, puis chez un autre, est-ce qu'on peut garder comme ça ces dispositifs? Est-ce qu'ils peuvent se cumuler? Comment ça se passe pour un salarié qui, comme on le disait, va avoir plusieurs vies dans sa vie, en tout cas professionnelle?
Alors oui, tout à fait. Il est possible depuis de nombreuses années, hein, lorsqu'on verse par exemple dans son plan d'épargne entreprise, de transférer, lorsqu'on quitte l'entreprise, ses avoirs dans sa nouvelle entreprise. Et avec l'émergence du PER collectif, hein, du plan d'épargne retraite, ça a été facilité. L'idée, c'est d'avoir quelque part une enveloppe qu'on utilise au gré de son parcours professionnel. Quand on est individuel, quand on est dans l'entreprise, et on peut transférer à souhait au fur et à mesure de ses mobilités, en fait. Et on a tout intérêt, justement, à utiliser cette transférabilité. Donc, c'est en train de se mettre en place au niveau du plan d'épargne retraite. C'est pas forcément simple parce qu'il y a encore des anciens dispositifs versus des nouveaux dispositifs. Mais ça se met en place petit à petit. Et c'est vraiment l'objectif du plan d'épargne retraite, c'est de donner une enveloppe qu'on pourra utiliser à souhait.
Je me trompe, messieurs les directeurs des ressources humaines, ou pour les salariés, c'est encore quelque chose... Voilà, on est très sur le salaire, très sur le package, comme on dit, un salaire, avantage, peut-être voiture de fonction, et ces dispositifs, c'est un plus, c'est un nice to have, mais est-ce que ça résonne chez les salariés? Est-ce qu'ils prennent la mesure de ce que c'est? Parce que ça peut être des sommes assez conséquentes, en tout cas en fin de carrière. Jacques Adou.
Je pense qu'aujourd'hui, la prise de conscience n'est peut-être pas encore très très forte, mais ça va aller assez vite. Parce que justement, comme les modes de travail changent, on s'aperçoit aussi que les attentes des collaborateurs changent. Quand, je vais prendre un exemple très concret, quand vous passiez 5 jours au bureau et qu'il y avait une cantine au bureau, personne ne se préoccupait dans l'entreprise de savoir si le collaborateur mangeait bien ou pas, parce qu'il allait à la cantine. Quand vous passez 4 jours au bureau, comment vous faites en sorte, en tant qu'employeur, votre responsabilité d'employeur, de dire ben, je suis être sûr que mon collaborateur va avoir une vie équilibrée.
Qui 4 jours pas... à la maison, vous dites.
Voilà, ouais. Exactement. Ouais. Oui, excusez-moi. Voilà, donc, et ça va être pareil, les solutions mobilité. On parle aujourd'hui, enfin, on voit bien que circuler dans Paris n'est pas quelque chose de tout à fait évident. Il y a un problème planétaire de préservation. Voilà. Comment les entreprises offrent des nouvelles solutions de mobilité? Comment le welfare, ce qu'on appelle welfare en termes anglo-saxons, devient aussi quelque chose de plus en plus fondamental? Et le welfare, c'est tout au long de sa vie professionnelle et c'est après. Ça veut dire qu'on part, entre guillemets, du ticket restaurant et on finit par le plan retraite. C'est comment, effectivement, je vais faire de tous ces éléments-là un élément d'attractivité et un élément de rétention. Et je pense que de ce côté-là, on va sans doute évoluer vers un peu un système anglo-saxon. Quand vous recrutez quelqu'un aux États-Unis ou en Angleterre, quand vous lui demandez son package, il va vous donner le salaire, mais de suite, il va vous dire plan de retraite, santé, etc., etc. Parce qu'effectivement, ce sont des choses qui peuvent fortement varier d'une entreprise à l'autre et qui sont un élément de rétention extrêmement important.
Sophie Lebeau.
Oui, je voulais juste ajouter qu'en termes de partage de la valeur, intéressement, participation, voire actionnariat salarié quand il y en a, c'est vraiment important de le mettre en valeur parce que c'est un élément déterminant et discriminant dans le choix d'une entreprise. Dans ce contexte justement de guerre des talents, comme on dit, c'est vraiment important de le mettre au goût du jour et surtout d'en parler et de communiquer. Ça permet toute la politique bénéfice de l'entreprise, tous les avantages sociaux, que ce soit la prévoyance, la mutuelle, l'épargne salariale, l'épargne retraite, l'actionnariat salarié. La communication, c'est la clé de succès, en fait, et ça permet aussi d'attirer les talents.
Dites-moi si je me trompe, Philippe, mais j'ai l'impression que c'est vrai quand on est dans les recrutements, on va parler, je disais package, on a souvent en plus ces dispositifs qui, en cumulé, peuvent faire, en plus les résultats sont très très bons dans les grosses sociétés, ça peut faire un mois et demi, deux mois de salaire supplémentaire. C'est quelque chose qu'il faut mettre en avant.
Ah, mais on ne le valorise pas assez. D'abord, par rapport à ce que disait Jacques Cadou, par rapport aux États-Unis, tous ces mécanismes de participation, d'intéressement, de santé en France sont obligatoires et collectifs. Donc on ne les retrouve pas dans la négociation du contrat de travail. Et donc je prends ce qui est donné à la collectivité, sans me poser trop de questions, puisque de toute façon, je ne pourrais pas choisir ma mutuelle ou ce que j'ai envie de récupérer dans ce cadre-là. Et deux, on a toujours eu du mal en France, c'est vrai, à valoriser ces éléments. Avec parfois la crainte de... par exemple, participation, intéressement, c'est variable. Et comme c'est variable, si jamais l'année prochaine, il y a moins que cette année, il ne faut pas trop que je dise que cette année, on a fait une trop bonne année. Et on a une certaine pudeur sur ces sujets. Et il y a quelques années, on a pas mal d'entreprises ont essayé de le faire. Et on voit bien que c'est un sujet sur lequel il n'y a pas un ancrage. Voilà, il n'y a pas un ancrage de communication fort, sauf pour des entreprises qui le font depuis très très longtemps et pour lesquelles ça fait partie de l'ADN. Moi, je constate qu'il y a des entreprises pour lesquelles ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. On sait que dans notre entreprise, la participation, l'intéressement, l'actionnariat salarié sont bons. Voilà. Et ça fait partie de ce qui me permet de m'acheter ma maison, mon appartement. Et d'autres où, non, ça fait partie des accessoires. Et je pense qu'il faudra qu'on enlève le mot accessoire au salaire, parce que sinon, on restera toujours sur le siège arrière.
Sophie Lebeau.
Mais on constate quand même une tendance de fond. Les entreprises ont envie et souhaitent communiquer parce qu'aujourd'hui, en fait, dans ces périodes un peu de crise, c'est un élément discriminant et c'est un élément important de la rémunération, de plus en plus important. Et les entreprises contactent par exemple Amundi pour les aider et les accompagner à communiquer sur ce thème via les sites internet, via des réunions auprès des salariés, etc. Donc c'est quand même la tendance de fond vient vers la communication et vers la bonne appréhension des dispositifs en place.
Jacques Adou, là aussi, valorisation. Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant, il y a, vous qui êtes au cœur de nombreux pays, c'est typiquement français, ces dispositifs voilà, de performance collective ou c'est partagé ?
Alors, on peut trouver des dispositifs de performance collective dans pas mal de pays. Après, les formes peuvent être différentes, tout simplement parce que la fiscalité du travail est tout à fait différente, ouais. Même y compris au sein de l'Union européenne, ce qui est parfois un sujet. Voilà, donc ça peut fortement varier, justement, où les pays, les pouvoirs publics mettent les curseurs entre la capitalisation et la solidarité. C'est ça qui est quand même souvent déterminant. Et en France, pour reprendre ce que disait Philippe, effectivement, je pense qu'il faut beaucoup plus mettre en valeur tous ces dispositifs, d'autant qu'ils sont fiscalement intéressants. Et dans un pays où, pour des raisons qui sont tout à fait explicables, nous avons quand même un niveau de charge sociale, patronale et salariale important, et après un taux d'imposition aussi quand même important, pour une entreprise, pouvoir optimiser sa masse salariale, ses avantages, et aussi pour le collaborateur, c'est aussi quelque chose qu'on ne met pas suffisamment en avant, à mon avis.
Ça va être quand même un sujet, cette histoire, parce qu'en termes d'attractivité, le jour où on a des salariés qui peuvent choisir aussi leur pays où ils vont travailler, et donc leur fiscalité, là, on n'est pas forcément très compétitif.
Non, mais c'est très juste. C'est vraiment un sujet qu'on va avoir à traiter. Est-ce que si je travaille en home office, j'ai intérêt à travailler pour la filiale française ou la filiale allemande ou la filiale belge d'un même groupe ? C'est une question que, pour le moment, on ne s'est jamais posée.
C'est-à-dire, je fais le même boulot de chez moi, sans, voilà, mais simplement ma fiche de paye ne va pas être émise de la même façon. Et donc, le net à la fin ne va pas être le même.
Et peut-être au final pour le même client. Parce que ça va être une grande entreprise qui va être cliente de ma propre entreprise. Et ça va faire partie des sujets. Et je pense que c'est vraiment ça va être une innovation absolue. Et il va falloir qu'on arrive à créer des systèmes qui vont bien. Ça nécessitera probablement, je dirais, au niveau européen, d'harmoniser encore un peu plus, d'harmoniser un certain nombre de choses, premier sujet. Mais ça nécessitera pour les uns et les autres un peu de créativité pour justement donner la possibilité à des salariés j'ai envie quand même de dire, de rester sur la paye du territoire national. Alors après, ça pose tout un tas de problèmes fiscaux et ainsi de suite. Ça pose deux choses, la fiscalité, la possibilité de le faire ou pas, et puis quand même la solidarité. Enfin, je le disais tout à l'heure, j'étais président de la GIRC, ce serait quand même embêtant si demain la moitié des jeunes ingénieurs ou des ingénieurs français préféraient, si c'était possible, plaise à Dieu que ça ne le soit pas complètement, possible d'être sur un payroll qui soit celui d'un autre pays. Parce que clairement, dans ce cas-là, le système de répartition tombe. Donc il faut aussi... Il faut savoir mettre un certain nombre de limites.
Jacques Adou,
dites-moi. Oui, ça peut être aussi, je reste dans mon pays, mais je choisis, préfère un statut de travailleur indépendant.
Exactement.
Parce qu'effectivement, en étant travailleur indépendant, je vais pouvoir justement choisir.
Exactement.
Choisir où je place, je suis payé pour une tâche, voilà. Et après, je choisis si j'investis dans ma retraite, si j'investis dans mes avantages, si j'investis, etc. Et là, c'est quelque chose, effectivement, qui commence vraiment à monter. D'où la nécessité pour l'entreprise de pouvoir avoir plus de flexibilité et d'optimiser, effectivement, les packages des collaborateurs.
D'aucuns nous prédisent très régulièrement la fin du salariat, on voit que ça résiste quand même. Messieurs, dames, on va s'intéresser maintenant aux pistes de solutions, un peu de prospective justement dans le futur. Comment vous voyez cette répartition aujourd'hui? C'est vrai que tout va plutôt bien, on est quand même sur des dynamiques fortes, les résultats sont là, on peut partager de la valeur parce qu'on en crée. Néanmoins, est-ce que, on a parlé d'individualisation, est-ce qu'il va falloir faire des répartitions un petit peu différentes? Est-ce qu'on va revoir ce fameux débat capitalisation versus répartition, comment vous anticipez? Est-ce que ce sont des sujets sur lesquels vous planchez aujourd'hui? Puis Vivien.
Les sujets capitalisation, répartition, on le reverra, forcément. Ça, là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Les régimes français de répartition ont été créés sur la base d'un ratio de un retraité pour X actifs. On était plutôt à 5, 6, 7, 8 actifs. En 1946, à la création de l'Agir, on va être à 1 pour 3. Et quand vous voyez, j'ai vu le chiffre l'autre jour, qu'il y avait plusieurs millions maintenant de Français de plus de 80 ans, on voit bien que l'allongement de la vie, qui est magnifique, génère aussi l'allongement des pensions. Donc de toute façon, il va falloir être capable de préparer, je dirais, cet allongement de la vie. Premier sujet, donc capitalisation, répartition, il faut arrêter d'en faire une opposition de principe. Deux, je crois que l'un des enjeux aussi des entreprises et des salariés, c'est de préparer justement, et je reviendrai toujours sur l'épargne salariale, je dirais cette capacité à acquérir une épargne pour l'utiliser après de la façon dont ils le souhaitent, acheter son premier appartement ou tout ce que vous voulez, mais on ne pourra pas ne pas plus travailler sur ces sujets. Si vous rajoutez la dépendance à tout cela, qui est, on le vit actuellement avec tout ce qu'on peut voir sur les EHPAD, on voit bien que sur la longue période, on a un vrai sujet de répartition des richesses et une fois la richesse répartie, d'affectation de ces sommes dans mes choix individuels pour aujourd'hui et pour après-demain.
Jacques Adou, est-ce que l'individualisation, justement, là aussi, pouvoir avoir quelque chose d'à la carte, un petit peu comme ce qui se fait à l'anglo-saxonne, ça ne serait pas une solution pour certaines catégories ?
Oui, je pense que ce serait bien qu'on puisse s'orienter vers une différenciation des choix tout au long de la vie professionnelle. Je crois que ça, ce serait bien, tout en préservant quand même un principe de solidarité, de cohérence dans l'entreprise. Hein. Je reviens sur cet équilibre nécessaire. Le collaborateur, effectivement, de 25 ans n'a pas les mêmes besoins que celui de 55 ans.
Bien sûr.
Et que celui, sans doute, de plus en plus de 65 ou 70 ans, parce qu'on, je crois qu'on est tous lucides autour de cette table pour savoir qu'il va falloir travailler plus longtemps. Ou alors, si on travaille moins longtemps, eh bien, ça veut dire qu'on fera peut-être d'autres choix. Et c'est là où, effectivement, l'individualisation du parcours professionnel, sur peut-être tout en respectant le principe de solidarité, mais sur l'affectation de fonds plus ou moins importants.
Donnez-nous des exemples. Comment ça pourrait se matérialiser ?
Par exemple, on pourrait dire, mes cotisations retraite, je peux les faire varier, peut-être, en fonction de mon âge et de ma situation. Je vais choisir un début de carrière où peut-être j'aurai moins de cotisations retraite, et puis un peu plus, par exemple, sur la santé maladie, parce que mes enfants sont jeunes, donc fortement consommateurs. Et puis, plus j'avance en âge, rééquilibrer en disant, je veux un peu plus investir sur la retraite, tout en restant d'ailleurs dans un régime de répartition. On n'est même pas, et ça peut être un complémentaire de capitalisation, mais on pourrait aussi avoir des systèmes un peu plus flexibles comme ça. Je crois que ce sera déterminant pour les collaborateurs, pour la rétention des collaborateurs et aussi pour leur permettre toujours de faire le choix de l'entreprise et de l'entreprise nationale. C'est important. Si on compare avec la santé, quand j'ai démarré ce métier il y a un peu plus de 30 ans, toi aussi je pense que ça doit être ton cas, quand on avait une très bonne complémentaire maladie dans une entreprise, dans l'entretien on le disait. On disait, monsieur, nous avons une très bonne complémentaire maladie. Ouais. Ah bon, voilà, parce que tout le monde n'avait pas ça, c'était quelques grosses entreprises. Et je pense pour les dispositifs d'épargne, par exemple, notamment aujourd'hui, on est un peu dans le même système. C'est quand même souvent des très grosses entreprises qui proposent ça. Donc on le met en avant parce qu'on sait que ça peut faire une différence par rapport à d'autres entités. Mais je crois que dans le futur, l'évolution de tous les systèmes de complémentaire maladie, on aura exactement les mêmes pour les systèmes de retraite, le tout de savoir comment on les mettra en place. Voilà.
Sophie Lebeau, sur ces dispositifs.
Si je me place d'un point de vue du salarié, c'est vrai que nous, on avait fait une enquête en 2018 qui avait montré que 74% des salariés attendent de leur entreprise qu'elle leur propose un cadre pour la retraite. Un cadre, la possibilité d'épargner pour leur retraite. Et c'était avant la loi Pacte et la mise en place du PER, du plan d'épargne retraite. Mmh. Et ce qu'on constate depuis cette date, en fait, c'est que les entreprises réfléchissent à réharmoniser, rééquilibrer en fait, les dispositifs d'épargne retraite qui sont dans l'entreprise, qui étaient soit ce qu'on appelle l'article 83 ou le PER obligatoire maintenant avec des collèges et des catégories pour certains salariés, soit le collectif collectif. Donc, il y a des vraies réflexions, il y a une vraie tendance de fond. C'est vrai que la réforme des retraites qui a été mise en stand-by a peut-être un peu stoppé net toutes ces réflexions. Mais on sent quand même, la grande tendance, c'est quand même que les entreprises réfléchissent et certaines n'attendent pas la réforme des retraites pour bien rééquilibrer le dispositif d'épargne retraite dans l'entreprise. Et nous, acteurs, on a aussi comme rôle à jouer d'inciter les salariés finalement à prendre en main ces dispositifs et à développer chez eux une culture de l'épargne retraite en fait. Et donc c'est à nous aussi de proposer des solutions, de proposer des bilans retraite par exemple, la gestion pilotée c'est une solution aussi pour les salariés qui ont de l'épargne salariale et de l'épargne retraite et qui ne savent pas forcément où aller investir. Donc c'est des choses qu'on peut mettre en place avec les entreprises qui souhaitent mettre en place cette épargne
retraite. Et c'était l'enjeu, effectivement, de cette loi Pacte qui a accéléré sur ces dispositifs. On peut le saluer. Reste une question du fléchage également de cette épargne. On voit que les dispositifs sont là. Est-ce que les salariés sont toujours informés ? Est-ce qu'ils sont toujours à même de choisir justement ce qu'ils vont faire de cette manne qui peut tomber et qui peut être assez conséquente, Fibille ?
Je crois qu'il y a eu d'immenses efforts de communication qui ont été faits sur l'affectation de l'épargne. Ça, là-dessus, il n'y a pas de débat. après, il y a ce besoin de décryptage au-delà de la communication, parce que quand, par exemple, vous, je dirais un intéressement, une participation, elle est bloquée 5 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? A priori, si j'étais, citoyen économique rationnel, où dois-je plutôt aller ? Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est de voir, malgré tous les efforts de communication qu'on peut faire, combien, par exemple, des salariés vont placer en monétaire des sommes qui vont rester très, 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 très longtemps, parce qu'ils sont encore en référence quasiment au livret A, alors qu'on leur, gérait des entreprises comme Amundi, leur offre des possibilités beaucoup plus, à la fois rassurantes, sécurisées et qui leur permettent de gagner un peu plus. Il y a encore, mais ça, on revient à aussi un de nos petits péchés français, il y a besoin de renforcer la culture économique, sans parler des grands agrégats, mais de la culture économique des salariés pour leur dire, voilà, si tu penses plutôt qu'au bout de 5 ans, tu vas sortir, ok. Si tu sors au bout de 2 ans parce que tu envisages l'acquisition d'une résidence, faut plutôt que tu ailles là-dessus. Si tu es à 2 ans de ta retraite, je crois qu'il y a vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait, mais c'est du sans fin. Là, il faut toujours, toujours,
là, c'est
toujours
de la pédagogie. Et on avait vu, Sophie Lebeau, que ça touche toutes les couches. On pourrait se dire, peut-être celui qui va être le mieux informé, les cadres de la boîte, même le CFO, directeur financier qui s'occupe de millions d'euros toute la journée ou de centaines de millions des investissements, pour leur épargne à eux, ils ne font pas grand-chose. Ça, c'est assez étonnant.
Oui, c'est vrai. Et pour rebondir sur ce que disait Monsieur Vivian, en fait, c'est quand même de moins en moins vrai que les salariés investissent leur épargne salariale en monétaire. Pour autant, c'est vrai qu'ils font peu d'arbitrage. Donc, une fois que c'est investi...
C'est pas dynamique.
Il n'y a pas forcément, pendant les 5 ans de blocage, si on est sur le plan d'épargne retraite, plan d'épargne entreprise, il n'y a pas forcément de prise en main, en fait, de son épargne. En revanche, nous, ce qu'on constate depuis 2 ans, c'est la tendance de fond, c'est vraiment les salariés veulent donner du sens à leur épargne. Alors ça s'est accentué avec la crise sanitaire. On a fait une enquête au printemps l'année dernière et ce qui ressort, en fait, c'est que 50% des salariés épargnants veulent donner du sens à leur épargne salariale. Donc de plus en plus, il faut qu'on leur mette à disposition des solutions à impact, ISR, ESG. Et puis, il y a aussi tout ce débat, enfin, pas ce débat, mais tout ce qu'on entend sur la RSE. Donc, ce qu'on souhaite faire aussi, c'est que de plus en plus...
Je peux me permettre ? Vous avez cité ISR, ESG, RSE.
Oui, c'est peut-être
du jargon. Alors, nous, on est dans notre jargon, dans notre monde, on est financier, on sait ce que c'est, on baigne dedans. On a fait pas mal d'émissions aussi là-dessus. Imaginons que quelqu'un qui se dit, moi, je veux donner du sens au monde du départ, je veux que ça serve à quelque chose. Si déjà, ça commence par 3 acronymes, c'est compliqué.
Vrai, c'est vrai.
Là aussi, il y a... Non, mais c'est... Ouais. Voilà. Ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement, les mots pour le dire viennent alors aisément. L'idée, c'est aussi de faciliter, d'avoir un message aussi beaucoup plus clair. On parlait de pédagogie il y a un instant. Là aussi, se dire, allez, on sort un peu de ce monde de financier. Non, la finance verte, la finance durable, simples. Et après, il y a des labels, on le sait. Mais je pense qu'aussi, ça peut commencer par là. Même dans les brochures et dans notre jargon, essayer d'en sortir un petit peu, ce serait pas mal.
Alors, c'est vrai que là, on est entre nous et je me suis permis d'utiliser ces acronymes. Mais c'est vrai
Qui nous regardent, on espère, on traduit. Investissement socialement responsable, responsabilité sociale des entreprises.
Voilà, le ESG.
Le ESG, les critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. Et alors j'ajoute, je vous laisse poursuivre juste après, c'est vrai que toutes les études le montrent et la crise sanitaire a accéléré ça. Les Français veulent donner du sens à leur épargne, ils sont même prêts à flécher leurs investissements majoritairement sur ces dispositifs. Alors, ils font toujours attention à la performance financière, mais ce n'est plus le critère le plus important. Les critères extra-financiers, en témoignent les scandales récents, vont être dans l'avenir, on le pense, encore plus importants.
Ils sont même prêts à prendre plus de risques parce qu'en fait, le fonds, le support de placement est connoté investissement responsable, finance verte ou autre. Donc, c'est vrai que il y a cette tendance de fond. Et là, entre nous, c'est vrai qu'on utilise ces jargons. Et effectivement, nous, acteurs, on a l'obligation, quelque part, de démocratiser tout ce vocabulaire-là. Et sur les sites web, par exemple, lorsque les salariés viennent investir leur épargne salariale, on ne leur parle pas forcément avec ces acronymes. On essaye d'être le plus pédagogique possible. Et d'être le plus transparent possible, en fait, sur aussi les impacts que peuvent procurer ces supports de placement.
Alors, c'est louable et fort. Est-ce que c'est entendu par les salariés? Est-ce que c'est une tendance qui existe? Ou est-ce que c'est l'offre qui crée la demande?
Non, oui. Ça, les entreprises ont fait cet effort depuis une dizaine d'années. Les salariés, ça y est, l'ont compris. Et aussi le fait d'avoir, en règle générale, introduit justement de nouveaux fonds qui étaient justement qui donnaient plus de sens à l'épargne, ont permis de communiquer sur le sujet. Et les salariés l'ont compris. Ça, il n'y a pas de sujet. Je veux dire aussi, les organisations syndicales ont aussi contribué à ce mouvement. C'est pas neutre. Et toutes les organisations syndicales, quelles qu'elles soient, même celles qui ne sont pas forcément d'accord avec nous sur un certain nombre de sujets, mais tout le monde a joué le jeu. Le comité intersyndical, sur tout l'investissement et l'épargne salariale, a joué le jeu aussi. Non, je crois qu'il y a maintenant un consensus là-dessus. Et maintenant, à nous de continuer à communiquer inlassablement pour que d'ailleurs ce soit les salariés qui communiquent eux-mêmes à leurs collègues. J'ai envie de dire, c'est aussi ce réseau social interne que sont les collaborateurs qui fera que tout ça aussi fonctionnera.
Oui, mais vous le savez, les collaborateurs autour de la machine à café vont peut-être plus se parler autour de leurs bonus que de leurs arbitrages sur les différentes unités de compte de leur épargne.
Tout le monde n'a pas de bonus, mais tout le monde a de la participation de l'intéressement. Donc, je pense que c'est pas neutre. C'est pas neutre.
Et la saison arrive, et c'est vrai que certains salariés ne se préoccupent de leur épargne salariale peut-être qu'une fois par an, au moment où on leur verse la participation, l'intéressement. Et c'est le bon moment, là, à partir du mois de mars, pour se poser les bonnes questions sur vers quoi investir. Je pense que ça peut être sujet autour de la machine à café, je pense.
On rappelle à tous ceux qui nous regardent, qui peuvent bien sûr poser vos questions à nos experts du jour. Sur toutes ces questions, Jacques.
Pour élargir un peu le débat sur la responsabilité d'entreprise, c'est quelque chose aujourd'hui qui est très étendu. Et quand on parle d'attractivité et de rétention, ça c'est par contre quelque chose qui est important. Est-ce que je travaille pour une entreprise responsable? Et dans ce que l'entreprise propose aujourd'hui à ses collaborateurs, il est très important de mettre la responsabilité sociale au cœur de nombreux choix. Ça part de l'immeuble dans lequel je travaille. Est-ce qu'il est écologiquement neutre ou pas? Est-ce que je vais proposer, par exemple, juste une voiture de fonction ou des solutions de mobilité douce aux collaborateurs? Parce que tout le monde n'a pas forcément envie, Est-ce que je vais proposer, une épargne responsable, etc., etc. Donc, sur toute la chaîne des avantages sociaux que l'on propose aux collaborateurs, ils veulent que ce soit socialement responsable. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose de déterminant.
Et cohérent aussi avec vos activités, les uns et les autres. Edenred, raison d'être, vous la connaissez par cœur, bien sûr.
Tout à fait.
C'est en anglais.
Tout à fait, oui.
Enrich Connection for Good.
For Good.
Comment on traduit ça? Les connexions.
Écoutez, c'est mettre ensemble, faire travailler les gens ensemble, développer les connexions entre les individus dans la sphère, d'Edenred. Ça veut dire, ce sont ce qu'on appelle les marchands, comme les restaurateurs. Ce sont les entreprises qui nous font confiance. Et puis, ce sont les utilisateurs. Donc, c'est enrichir les connexions de toutes ces parties prenantes pour le bien-être de tous et être le compagnon universel des collaborateurs, des salariés au travail.
Et oui, puisqu'avant de donner du sens à leur épargne, évidemment, les salariés, ils donnent aussi du sens à ce qu'ils font au jour le jour, de plus en plus. Hein, d'ailleurs, tiens, un petit aparté peut-être en attendant les questions qui vont arriver. Donner du sens, en tout cas faire sens, c'est vrai qu'on sent, notamment sur les nouvelles générations, que là, on dirait que le monde a changé là aussi. Je vous donne cette anecdote. Il y a quelques années, on commençait dans une entreprise pendant 3 ans, il fallait pas bouger, il fallait se faire ses classes, un peu quoi qu'il arrive. On dirait que ce monde-là est terminé. Les millennials, la Gen Z, elle n'hésite pas, si ça lui convient pas, à prendre son baluchon et aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, Vivien.
Ben oui, c'est pas plus mal, parce que ça oblige les entreprises, ça nous oblige tous en tant qu'employeurs, en tant que dirigeants, à faire attention, à regarder effectivement ce qu'on apporte à nos salariés, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'emploi, de formation, de conditions d'emploi au sens large, et d'avenir professionnel. Et je crois que on est de nouveau dans une situation, et ça revient à la pénurie, c'est à la fois du sens et de la pénurie. Alors, il y a peut-être une pénurie de talent, il y a peut-être aussi une pénurie de sens. Donc à nous d'être capables d'apporter tout cela, et je crois que ça va revivifier les entreprises. Enfin, moi je trouve que c'est un moment intéressant. Enfin, j'étais dans la Silicon Valley au début janvier. C'était intéressant parce que c'était justement le moment où tous ces jeunes se posaient la question de stop ou encore, quoi, comme on disait dans un jeu. Et on voit bien qu'il y avait tous ces jeunes qui, c'était pas seulement l'impact du bonus, mais c'est est-ce que je vais faire quelque chose ailleurs. Ben voilà, ouais. Quoi. C'est, je pense qu'il faut qu'on intègre dans ces entreprises que la notion de rétention, elle n'est plus sur 30 ans. Voilà. C'est, je pense, une entreprise avec laquelle on a, par exemple, travaillé, qui était une petite entreprise dans un secteur qui est un immense secteur, et où là, comment dire, la promesse employeur, c'était « vous ne resterez pas chez nous toute votre vie, mais en 3-4 ans, vous apprendrez beaucoup plus que dans les grandes entreprises concurrentes ». Voilà. C'était, on n'est pas très grand, on n'est pas capable de vous offrir une carrière.
Mais vous allez apprendre.
Mais en 3 ans, ce qu'on vous propose, c'est un projet magique avec vous.
C'est quand même un vrai dilemme pour vous, c'est vrai, de former, attirer ses collaborateurs. On dit que ça prend du temps, de l'argent, etc. Et ensuite, ils sont, je le disais, assez volatiles. Est-ce que c'est une solution d'envisager peut-être le moyen terme, dire, si vous allez travailler en mission, peut-être pendant 3-4 ans?
On sait très bien aujourd'hui, effectivement, que peu de collaborateurs passeront leur carrière dans l'entreprise, voire pas. Après, je crois que le devoir d'une entreprise, en tout cas, c'est comme ça qu'on le considère chez Edenred, c'est certainement pas garantir l'emploi, mais c'est garantir l'employabilité. C'est exactement ce que tu disais. On sait que n'importe quel collaborateur qui rentrera chez Edenred, il en sortira plus compétent, plus fort, mieux à même, je dirais, d'appréhender sa vie professionnelle. Et ça, c'est notre responsabilité, c'est notre devoir. Et puis aussi, quelqu'un peut partir et il peut revenir. Nous, on a des collaborateurs qui, ont peut-être fait 4-5 ans chez nous. À un moment, ils ne voient plus la prochaine étape. Ils peuvent tenter une autre aventure qui peut être individuelle ou dans une société plus petite, etc. Et puis, au bout de 3-4 ans, s'apercevoir que peut-être, finalement, c'était pas si mal Edenred, et revenir, et on les accueille à bras ouverts.
Ah, vous les reprenez,
bien sûr.
Non, mais tout le monde ne le fait pas. Il y a des gens qui disent, vous partez, c'est
mais non, mais enfin, ça, c'est... quelqu'un qui va partir en mauvais terme, bien sûr, mais ça, comme partout. Mais l'immense majorité des collaborateurs qui quittent chez nous quittent parce qu'effectivement, ils ont à un moment envie de tenter autre chose, ou que la vie les oblige à faire autre chose, parce que le conjoint bouge, etc. Et après, s'ils reviennent et qu'ils ont été des bons collaborateurs, et on les reprend avec plaisir.
Débat passionnant avec nos experts ce matin, Jacques Adou, Philippe Vivien. On va démarrer les questions. Allez, première question pour Sophie. On parle toujours du partage de la valeur. On est en plein dans le sujet. Est-ce qu'il y a des mesures en faveur de ce partage de la valeur qui sont envisagées par les différents candidats aux élections présidentielles qui auront lieu dans quelques semaines maintenant?
Alors effectivement, pour l'instant, on sait que c'est au cœur du débat, le partage de la valeur, notamment avec la progression de l'inflation, le pouvoir d'achat. On entend effectivement, comme on le disait tout à l'heure, des petites musiques qui disent que ça serait bien que la participation devienne obligatoire. Donc c'est des petites choses qu'on entend. On a aussi Thibault Langsade, qui on en parlait aussi tout à l'heure, qui promeut et qui défend quelque part ce qu'on appelle le dividende salarié. Donc je pense effectivement, pour l'instant c'est encore trop tôt pour le dire, mais il y a ce sujet qui est quand même... prégnant dans le cadre des débats sur les élections présidentielles.
Voilà, il faut doubler, nous dit Thibault Langsade, les montants de la participation et l'étendre à toutes les entreprises. C'est vrai qu'on entend, plus largement sur les élections, on n'a pas l'impression que... On parle beaucoup pouvoir d'achat, on parle un petit peu moins de ces dispositifs. C'est peut-être trop technique.
Mais en même temps, je pense que c'est la première fois que ce sujet est vraiment, pas au cœur évidemment, mais fait partie des éléments du débat. Et c'est intéressant parce que tout le monde a apporté des éléments. Alors évidemment, ils sont assez semblables les uns les autres, quoi. Mais je trouve que c'est la première fois qu'on voit ce mouvement de fond sur participation, intéressement. Comment est-ce qu'on l'étend? Comment est-ce qu'on le met en place de manière unilatérale? Qu'est-ce qu'on fait du forfait social? Enfin, il y a quand même. Enfin, je reprends exactement ce que vous disiez. Il y a vraiment une petite musique qui est pas neutre sur le sujet.
La semaine dernière se déroulaient les assises de l'épargne salariale organisées par Fondact. Et c'est vrai que parmi les mesures qui sont quelque part mises en avant par Fondact, par aussi l'Association française de gestion, etc., c'est, même si ça sera peut-être difficile, c'est la suppression du forfait social, c'est l'ouverture de l'épargne salariale pour toutes les entreprises, de la plus petite à la plus grande. Donc effectivement, c'est des sujets récurrents et...
Très bien. Écoutez, on espère qu'en tout cas, ça sera entendu et qu'on va ouvrir et multiplier ces dispositifs. Question de Mathilde. Attention, c'est un peu technique. Les collecteurs d'épargne salariale peuvent-ils imaginer associer des prestations de conseil à leurs services pour répondre aux attentes individuelles, par exemple sur l'orientation de l'épargne?
Oui, c'est déjà un petit peu le cas, en fait. C'est déjà ce qui est fait.
Les collecteurs d'épargne salariale, juste, c'est qui?
Samundi, par exemple.
Oui, c'est vous.
C'est okay. Tous les acteurs qui accompagnent les entreprises et qui... donc c'est Amundi, c'est d'autres, évidemment, acteurs. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on a vraiment, vraiment en tête parce qu'on sait très bien que l'épargnant a besoin d'aide. Donc on l'accompagne du mieux que l'on peut aujourd'hui. Via les plateformes téléphoniques, même si on n'a pas le droit aujourd'hui de faire de conseils. Hein, il y a quand même les plateformes téléphoniques qui sont là pour répondre aux appels des salariés, pas pour leur donner, mais pour les aider quand même à bien appréhender leur épargne salariale. Il y a aussi les robots advisors, hein, l'accompagnement dans les choix de placement. Et de plus en plus, effectivement, on réfléchit à des solutions d'accompagnement. C'est vrai que oui, c'est le rôle du collecteur.
Sur leur épargne, sur leur patrimoine en général, on ne va pas vous dire, tiens, il faut acheter des actions japonaises
ou telle ou telle.
Ça, c'est pas possible. D'accord. Autre question, est-ce que les enveloppes de participation et d'intéressement versées prochainement seront en hausse?
Alors nous, on pense que oui. Hein. Les entreprises annoncent des résultats en forte hausse, donc on attend. Hein, dès fin février, début mars, on devrait être fixé. Mais globalement, je pense que les enveloppes de participation et d'intéressement... seront en hausse versus 2021.
Oui, messieurs.
Bah, à partir du moment où les résultats des entreprises, il y a un mécanisme.
Ah oui,
voilà,
c'est un mécanisme de
mécanique. Voilà.
Oui. L'intéressement est souvent aussi basé sur une progression des résultats. Mmh. Donc, à partir du moment où l'entreprise est dans une dynamique positive concernant sa rentabilité, ses résultats, ses objectifs, on peut supposer que les enveloppes sont plutôt en hausse.
Jacques Adou, justement, tiens, petite question. Est-ce que c'est challengé par exemple, peut-être les syndicats ou les responsables des salariés, ou est-ce que le calcul, finalement, est mathématique et très, très
l'intéressement
très connu.
Se négocie.
Oui.
Donc à partir du moment où ça se négocie, bien forcément c'est challengé par les représentants des salariés. Et chaque fois que vous renégociez un accord d'intéressement, eh bien voilà, chacun des parties essaie de trouver un terrain d'entente positif à la fois pour améliorer, je dirais, le dispositif vis-à-vis des salariés et aussi le mettre en lien avec le développement de l'entreprise.
Étant salarié, vous êtes donc jugé parti à ce moment-là?
Oui, on peut dire les choses comme ça.
C'est pas évident.
Le rôle du DRH, c'est toujours de trouver le bon équilibre.
Ouais.
On est là pour ça.
Ouais, ouais. En toute indépendance, bien évidemment. Le PER, ce fameux plan d'épargne retraite, est un vrai succès. En est-il de même sur le PER collectif, le plan d'épargne retraite collectif? Sophie Legault.
Oui, on est très satisfait du plan d'épargne collectif qui est très proche. En fait, le PERCO qu'on connaissait dans son ancienne mouture est très proche du plan d'épargne retraite. Donc, effectivement, c'est un vrai succès. Aujourd'hui, si je parle sur le marché français, en fait, c'est 12,5 milliards d'épargne dans le PER collectif sur les 45 que compte le PER dans sa globalité, en fait. C'est un vrai succès, oui.
On doit transformer son PERCO en PERCOL. Est-ce qu'en fait, il faut garder ses anciens dispositifs ou il faut tout mettre sur les nouveaux qui sont peut-être plus innovants, mieux?
Pour l'instant, il n'y a pas de date limite, donc on peut conserver son PERCO. Pour autant, nous, chez Amundi, on constate que 90% des PERCO ont été transformés en PER collectif et on a tout intérêt pour bénéficier des nouveaux avantages du PER collectif de le transformer. Et on a quand même une petite... deadline, en fait, cette année, si on transforme avant le 31-12-2022 son PERCO en PER collectif, on peut conserver un avantage fiscal qu'on ne pourra plus conserver après. Donc, on incite les entreprises à le faire le plus rapidement possible avant la fin de l'année.
PERCO, PERCOL pour, je ne sais pas, peut-être les salariés qui nous écoutent, qui sont un peu perdus, à qui on s'adresse? On va voir son DRH préféré pour discuter de ces sujets et voir optimiser aussi. Jacques Adou.
Oui, ça peut être ça. Mais
son conseiller en gestion de patrimoine peut aussi aider à ce moment-là, si on en a?
Pour le PER collectif, il faut plutôt s'adresser effectivement dans son entreprise, auprès des personnes qui sont des relais souvent dans les entreprises sur tous ces sujets-là.
Avec souvent des techniciens de vol, parce que ça reste un sujet très technique.
D'accord. Donc voilà. Et puis toujours pareil, hein, essayer de voir aussi la globalité du patrimoine et puis des desiderata. Hein, c'est peut-être pas pareil pour quelqu'un qui vient d'arriver dans l'entreprise 30 ans que quelqu'un qui est près de la retraite. Quelles sont les grandes tendances, tiens, justement, en matière de partage de la valeur? Sophie, toujours.
Alors en matière de partage de la valeur, on a plusieurs grandes tendances. Donc, on en parlait tout à l'heure, la responsabilité sociétale des entreprises devient de plus en plus prégnante, en fait, dans les accords d'intéressement, par exemple. De plus en plus d'entreprises souhaitent mettre des indicateurs RSE dans leurs accords d'entreprise. Donc ça, c'est une des tendances qu'on constate. Ça permet quelque part, en fait, aux salariés de s'approprier tout ce qui est RSE, hein, qui n'est pas forcément le cas dans les entreprises. Une autre grande tendance, c'est le développement de l'actionnariat salarié. Hein, ça a vraiment le vent en poupe depuis, encore une fois, la loi Pacte. De plus en plus d'entreprises. Jusqu'à présent, c'est vrai que l'actionnariat salarié était plutôt l'apanage des grandes entreprises. Oui, mais ce qu'on constate depuis un an et deux ans, c'est que les entreprises de taille intermédiaire souhaitent vraiment, pour attirer des talents et fidéliser leurs salariés, mettre en place de l'actionnariat salarié.
Même quand elles ne sont pas cotées, on peut avoir une cotation interne.
Oui, le fait d'être non cotée permet malgré tout de faire de l'actionnariat salarié. Et c'est celle justement qui aujourd'hui tape à notre porte pour le mettre en place.
Ouais, très grand groupe de distribution.
C'est l'extension majeure de l'actionnariat salarié, les entreprises non cotées. Ouais. Soit parce que ce sont des entreprises familiales, soit parce que ce sont des entreprises qui sont détenues par des fonds, et donc non cotées. Et je crois que c'est vraiment un des éléments... Enfin, c'est ce qui fera la différence demain. C'est vraiment cette capacité de ces entreprises de taille moyenne, intermédiaire plus, à aller vers ces modèles. Oui, je crois que c'est vraiment important d'aider les entreprises à aller dans ce sens-là.
Amundi a ces solutions justement pour aider une société non cotée
On accompagne des entreprises non cotées dans la mise en place de l'actionnariat salarié. Oui.
Très bien. Vous venez de répondre partiellement à la question d'Anthony qui nous dit « Vous parlez d'intéressement. Envisagez-vous de mettre un ou plusieurs critères RSE ?» Voilà. Et si oui, lesquels vous semblent parlants pour un collaborateur ?
Je peux répondre si vous voulez. Oui, bon, d'abord, effectivement, je pense que la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise aujourd'hui s'infuse partout. Je peux vous citer par exemple un exemple. Vous savez que voilà, il y a aussi des dispositifs de distribution d'actions gratuites sous conditions de performance dans les entreprises. Bon, ben, chez Edenred, on a trois piliers pour ces obtentions. Le troisième pilier, ce sont des critères RSE, basés sur des objectifs de diversité. Le nombre de femmes dans les populations exécutives, des critères d'émissions de gaz carbone, comment arriver le plus rapidement possible, je dirais, à diminuer nos émissions, et des critères, puisque notre produit d'origine est encore une activité très importante, repose sur le ticket restaurant, comment favoriser une nutrition responsable avec, tous les pays où nous diffusons du ticket restaurant. Comment faire lutter contre la malbouffe, contre l'obésité, qui sont aujourd'hui un des facteurs de santé majeurs au niveau mondial. Voilà. Et après, ça se diffuse partout dans l'entreprise. Aujourd'hui, le collaborateur attend que son entreprise soit socialement responsable. Ça veut dire que dans toutes les solutions, au niveau des avantages sociaux qu'on va lui proposer, il faut que ce soit une solution qui permette à lui-même d'aller mieux et à la planète d'aller mieux. C'est ce qu'on appelle le care dans l'environnement anglo-saxon. Et cette notion de care, elle est à tous les niveaux. Comment je suis un salarié responsable ? Être un salarié responsable, c'est travailler pour une entreprise responsable qui va me proposer des avantages sociaux responsables, des produits d'épargne responsables et dont je sais très bien que l'entreprise, dans ses objectifs, eh bien, voilà, comme c'est peut-être le cas chez Edenred, nous avons 10 objectifs de ESG et nous les suivons, etc. Et nous ne sommes bien sûr pas les seuls là-dedans, mais ça devient un critère de choix aujourd'hui pour le collaborateur. Est-ce que les avantages sociaux que vous me proposez sont responsables ? Est-ce qu'ils favorisent le développement de l'individu, mais aussi la préservation de la planète ?
Un facteur de choix et bien sûr d'attractivité là aussi.
C'est clair.
Vous faites votre publicité avec ces belles valeurs. Philippe ?
Non, mais la même chose. Et je pense que c'est important, c'est que les critères qu'on va choisir puissent justement influencer positivement les comportements des salariés dans l'entreprise, mais en dehors de l'entreprise. C'est exactement ce que Jacques vient de dire. C'est-à-dire, on a vu, par exemple, au début, beaucoup de critères qui étaient liés à la sécurité au travail dans les entreprises. Et puis, on a vu qu'on est passé de la sécurité au travail à la sécurité globale, à la santé. Et je crois que ça, c'est vraiment important, parce que la capacité... Enfin, il n'y a pas de différence entre une vie pro et une vie personnelle. Et quelqu'un qui fait attention à la sécurité quand il est dans l'entreprise, on peut espérer qu'il fera aussi attention à sa sécurité, à celle de sa famille, le week-end ou quand il ne sera pas dans l'entreprise. Et je crois que là aussi, les entreprises ont une fonction d'entraînement. Ouais. Et la RSE, elle passera largement par les entreprises. Et pas la RSE simplement en trois lettres, mais véritablement cette transformation des comportements. Je suis persuadé qu'elle passera autant par l'entreprise que par le monde extérieur à l'entreprise.
Le monde extérieur, et puis surtout, on attend souvent beaucoup, surtout en France, de l'État ou des lois. Je pense que là, la finance a fait sa révolution, est en train de mettre la pression sur les entreprises pour qu'elles soient de plus en plus vertueuses. Et puis les entreprises elles-mêmes savent qu'effectivement, c'est un enjeu de taille, notamment pour attirer ses talents. Sophie, un petit mot de conclusion sur cette table ronde ce matin, partage de la valeur politique 2022 des avantages sociaux.
Une table ronde très riche, hein. On a couvert beaucoup de sujets et c'est vrai que le partage de la valeur, les avantages sociaux, c'est vraiment au cœur des préoccupations, je pense, des salariés malgré tout, à mettre en avant et à communiquer par les entreprises.
Le plus largement possible. Merci en tout cas Sophie Lobo. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale épargne salariale et retraite chez Amundi. Jacques Adou, un grand merci. Directeur général ressources humaines et responsabilité sociétale chez Edenred. Et enfin, Philippe Vivien, un grand merci à vous également, vice-président du groupe Alixio. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel webinaire, un nouveau Web ESR. À très bientôt.
Webinaire Web ESR. Un webinaire proposé par Amundi Épargne Salariale et Retraite sur le thème « Partage de la valeur et politique 2022 des avantages sociaux ». Un webinaire animé par Fabrice Coustet.